Vous connaissez la prière que le Seigneur nous a enseignée. Et au sein de cette prière, il y a cette requête particulière. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ou ne nous soumet pas à la tentation, ne nous induit pas en tentation, comme on a essayé de traduire au mieux cette pensée du Seigneur. Donc ces paroles, Jésus nous a demandé de les adresser à notre Père céleste. Et combien elles sont importantes, comme chacune, bien sûr, des requêtes de cette prière. La tentation est là. Et nous pourrions dire, les tentations sont là. Et à chacune de ces tentations, il faut résister. Cependant, nous cédons, souvent ou pas souvent, dans un domaine plutôt qu'un autre, ou dans plusieurs domaines, nous cédons aux diverses tentations. Mais par la repentance, nous revenons. L'évangile de la grâce nous convainc de nous humilier devant Dieu et de nous relever en étant pardonnés. Mais arrive le temps de l'épreuve, plus grande, plus forte, plus profonde. Nous sommes non seulement face à notre péché, ce péché, dit l'apôtre, qui nous enveloppe si facilement, mais aussi face à l'ennemi de notre âme. Sa puissance agit de façon insidieuse ou brutale, et nous ne saurions lui résister par nous-mêmes. Nous avons besoin de crier à Dieu. Seigneur, ne me laisse pas à mes propres forces dans ce combat. Je ne saurais tenir. Ne permets pas une situation telle que l'adversaire domine sur moi. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est la demande complète. La vigilance est de mise en tout temps. Nous faisons cette prière quand tout va très bien, autant qu'au moment où des choses commencent à aller mal. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve de la tentation. Alors nous pouvons commencer par nous fortifier en nous remémorant comment notre Seigneur a lui-même résisté à la tentation, puisqu'il a été éprouvé de façon particulière au début, juste avant de commencer son ministère. Nous le prenons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors, je ne veux pas faire un long commentaire, mais déjà relever que l'Esprit remplissait Jésus et l'a lui-même conduit pour cette confrontation avec le tentateur. Pas Jésus en tant qu'homme qui est allé, on peut dire, défier le diable. Si nous avons cette pensée ou cette attitude de pouvoir défier le diable, alors nous pouvons abandonner tout de suite parce qu'il va nous vaincre. C'est rempli de l'Esprit de Dieu et conduit par l'Esprit. Et Jésus a obéi à l'Esprit Saint à ce moment et il était porté, soutenu par le Saint-Esprit. Le deuxième point que je veux relever, c'est que le point d'appui du diable est d'obtenir une démonstration immédiate, visible, de la nature divine de Jésus. Si tu es fils de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, le diable veut amener immédiatement Jésus dans le doute, comme il a voulu faire douter au commencement Ève et Adam. Si tu es fils de Dieu. Jésus devait démontrer donc qu'il était fils de Dieu. Ça veut dire que s'il répondait à cette injonction du diable, il entrait dans le doute. Il acceptait de douter qu'il était le fils de Dieu et de devoir le démontrer. Alors si vous recevez vous-même l'idée, parce que vous êtes fils ou fille de Dieu, voilà, vous avez été créé en Jésus-Christ pour être fils et fille de Dieu. Si vous recevez l'idée que vous devez faire quelque chose d'exceptionnel pour démontrer votre attachement à sa parole, c'est une tentation du diable, un doute qu'il introduit en vous. Vous avez reçu l'assurance que vous êtes enfant de Dieu. C'est Dieu qui l'a déclaré, vous avez cru, vous êtes engagé, vous avez obéi, vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez rien à prouver. Ça se montrera dans vos œuvres, mais a priori, vous n'avez surtout pas à douter et vouloir démontrer par une action particulière que vous êtes enfant de Dieu. Alors, la première tentation, c'est ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus a faim à ce moment-là, et une faim qui n'est certainement pas une faim comme on peut avoir de temps en temps, mais c'est le moment où, voilà, après 40 jours sans manger, il est vraiment rejoint par ce besoin impérieux de manger, de nourrir son corps. Et donc, cette satisfaction d'un besoin légitime, réel, est exploitée par le diable. Et il veut que Jésus y réponde immédiatement en exerçant son pouvoir sur la nature. Eh bien, cette satisfaction d'un besoin immédiat est supplantée dans le cœur de Jésus par la satisfaction de vivre par la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu précise ce qui est le texte du Deutéronome, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui nourrit Jésus, c'est ce qui satisfait Jésus. Et pour nous aussi, la parole de Dieu, pour notre âme, vaut plus que ce qui fait notre vie physique ou relationnelle ou sociale. Ce qui compte, c'est ce que nous recevons par la parole de Dieu qui nourrit notre âme. Alors, la deuxième tentation, je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Disons que le diable avait usurpé, mais par le péché de l'homme, elle lui a quand même été donnée. Si tu m'adores, elle sera toute à toi. Et Jésus répond, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus connaît Dieu. Je pense que ce qui est important dans cette parole, c'est tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Jésus connaît Dieu et il ne peut rendre hommage, honneur qu'à lui seul, étant donné qu'il le connaît, qu'il est son Dieu. Si Dieu s'est révélé à vous, alors vous lui rendez gloire et honneur à lui seul. Si vous, ceux qui peuvent, on peut dire, se tourner vers le diable, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas eu de révélation de Dieu. Eux, ils sont soumis à la puissance du diable. Mais si vous, vous connaissez Dieu maintenant, s'il s'est révélé à vos cœurs par Jésus-Christ, à ce moment-là, toute votre capacité est pour Dieu, puisqu'il ne s'agit pas seulement de l'adorer, mais de le servir, lui seul. Malgré ce que le diable peut vous faire miroiter de sa mainmise sur le monde, pour vos cœurs qui sont convertis à Dieu, seule la gloire de Dieu compte. Et enfin, le diable qui connaît la parole veut utiliser cette parole pour amener le Fils de Dieu à céder. Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Eh bien, Jésus lui répond également par une parole de l'Écriture, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Obéir à une suggestion du diable est contraire à l'assurance que l'on a dans les promesses de Dieu. Si nous avons l'assurance dans les promesses de Dieu, alors elles s'appliqueront, elles seront efficaces là et quand le Seigneur le dira et le voudra, mais nous n'avons pas à provoquer une situation pour qu'elle se vérifie. C'est céder à une suggestion du diable que de provoquer une situation difficile ou de faiblesse qui est censée permettre au Seigneur de se glorifier. Alors, nous allons aller voir dans les sentiments du psalmiste psaume 119, dont je ne lirai que les deux premières strophes en quelque sorte, puisque il est composé de 22 strophes de 8 versets. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Alors après la bénédiction générale prononcée sur ceux qui aiment les commandements du Seigneur, le prophète s'engage personnellement. Et il va dire tout au long du psaume son attachement à la parole de Dieu. Mais aussi, il criera sa détresse de pouvoir tomber ou s'égarer. En fait, c'est assez surprenant parce que, à la fin du 8e verset, « Je veux garder tes statuts », ne m'abandonne pas entièrement. Ne me laisse pas entrer en tentation. Ne m'abandonne pas. Si tu m'abandonnes, tout ce que je dis là, je ne saurais pas le faire. Pareil, un peu plus loin, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et le psaume se terminera un peu de la même façon. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Donc tout en étant fermement attaché à la parole, en la désirant, en la serrant contre son cœur afin de ne pas pécher, et d'autres expressions au cours du psaume le redisent de différentes manières, le psalmiste ne se confie pas en ses bonnes dispositions. Il demande au Seigneur de lui épargner l'égarement, de lui épargner la chute. Il met sa confiance non pas en ses bonnes dispositions, mais en Dieu qui le sort de sa misère morale. Le péché est attaché à nous. La faiblesse est là et nous avons besoin que le Seigneur nous en préserve, comme David le fait à la fin du psaume 139, qui pourtant est un psaume qui exalte la connaissance parfaite que le Seigneur a de nous et qu'il est là tout autour de nous pour nous garder, nous conduire, pour être présent vraiment dans nos vies. Mais il termine « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Oui, nous avons besoin d'être gardés par le Seigneur, même dans nos bonnes dispositions envers lui. Alors on sait que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu, spirituellement, cela s'entend, mais moralement aussi. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui craignent l'Éternel comprennent tout. Proverbe 28, verset 5. De la même façon, dans le Proverbe chapitre 4, versets 18 et 19, Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ce sont deux contextes de vie qui s'opposent. Jésus est venu nous apporter la lumière de la vie, sans laquelle nous chutons. Car comme il le dit à l'occasion de la mort de Lazare, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. La lumière aussi donnée à l'aveugle-né. Je suis venu afin d'être la lumière de ceux qui ne voient pas, dit le Seigneur, au sein de ce monde. Eh bien, cette lumière qui a éclairé la vie de l'aveugle-né est allée jusque dans le tombeau de Lazare pour lui rendre la vie. Donc, restons avec celui qui donne vie et lumière. C'est lui qui a cette puissance de la vie et de la lumière pour nous garder. Dans notre faiblesse, nous sommes exposés à la tentation. Nous pouvons être séduits. L'apôtre Paul établit bien envers les Corinthiens, chapitre 11 de la deuxième, versets 13 à 15, qu'il y a de faux serviteurs, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et bien sûr, s'il se déguise en ange de lumière, c'est pour séduire, c'est pour attirer à lui. Donc nous pouvons être séduits. Nous pouvons aussi ne pas comprendre les voies de Dieu, ainsi que sa réprimande. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, les versets 5 à 8, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitime et non des fils. L'apôtre amène ici la compréhension de la voix de Dieu dans ses réprimandes. Et si nous ne comprenons pas que Dieu est là aussi pour nous réprimander, nous sommes exposés à la tentation. Nous pouvons aussi souffrir excessivement. C'est le cas de Job. Le diable lui a envoyé des souffrances extrêmes. Et dans ces temps de souffrance excessive, pensons à nos frères en Afrique qui voient arriver des bandes de djihadistes ou de bandits tout simplement, qui viennent les massacrer, qui viennent violer leurs femmes, sont des souffrances abominables qu'ils supportent. Et au sein de ces souffrances extrêmes, il y a bien sûr la tentation de renier le Seigneur, de s'en détourner. L'apôtre Paul était inquiet pour les Thessaloniciens. À un moment donné, je vous lis juste chapitre 3, verset 5 de sa première. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Et si nous pensons aux apôtres eux-mêmes, eh bien, Jésus, à un moment donné, avertit Pierre. Il lui dit, Luc, dans chapitre 22, versets 31 et 32, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Pierre va passer par un moment terrible, avec la souffrance du moment de l'arrestation, de la crucifixion, de la mort de Jésus, tout ce que le Seigneur a supporté et que Pierre ne va pas supporter en fait. Et ensuite, il va être éprouvé dans sa foi d'avoir renié le Seigneur. Et puis plus tard dans sa vie, il va aussi terminer en étant martyr. Donc Satan vous a réclamé pour vous passer, pour vous cribler comme le froment. Mais le Seigneur annonce qu'il a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas. Il s'agit bien de rester dans la foi. Alors quel est notre recours dans ces tentations-là? C'est le Seigneur lui-même. Rien d'autre, c'est le Seigneur lui-même qui est notre recours. Nous pouvons premièrement compter sur sa compréhension profonde. Dans l'Épître aux Hébreux, en fait, tous les premiers chapitres nous amènent à cela. Je prends déjà le chapitre 2, verset 8 que j'ai déjà lu. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Au chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. Et puis, au chapitre 5, versets 7 à 8, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et qui a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, le Seigneur Jésus compatit. Nous pouvons compter sur sa compréhension profonde parce qu'il a été tenté comme nous. Et puis, enfin, nous pouvons porter les regards sur lui qui a été glorifié maintenant. Épître aux Hébreux, toujours chapitre 12, versets 1 à 3. En sachant aussi qu'il y a un grand nombre de témoins qui nous ont précédés sur ce chemin, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, ou qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée, en vue de la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Donc, ayons les regards sur lui. L'Apocalypse nous mène à la victoire finale, à la gloire éternelle. Mais sur quelle base ? La base de cette révélation, c'est Jésus lui-même qui a vaincu par sa mort. Le premier chapitre de l'Apocalypse, c'est Jésus. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est lui qui se présente et qui peut dire « Je suis le premier et le dernier et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est ce qui fonde tout le reste, qui nous donne de l'assurance quand on voit tous les réprimandes, les jugements qui vont venir sur la terre, etc. Au début, il y a Jésus, révélé dans sa gloire comme ayant vaincu. Jude, en fait, l'épître de Jude expose l'impiété des derniers temps. Ceux qui auront détourné la foi, renié la foi. Mais il compte finalement sur l'ancrage des fidèles en Jésus-Christ. Ceux qui tiendront, ceux qui vivront jusqu'au bout le bon témoignage, ce sont ceux qui sont ancrés dans la révélation de Jésus-Christ. Il termine à partir du verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. C'est lui qui peut nous préserver de toute chute. Et c'est à lui que nous rendons gloire. Et c'est dans cette louange et cette action de grâce et cette adoration du Seigneur parfait que nous aurons le secours et que nous serons préservés de la chute. Je terminerai en lisant un psaume. Il y en a deux, en fait, qui sont dans la même pensée. Psaume 56, psaume 116. Je vais lire le psaume 56. Au chef des chantres, sur Colombe des térébintes lointains, hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath, donc au cœur de l'épreuve. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen.